Vous êtes sur Radio Pleine Lune à 3,8 MHz ce soir dans Histoire d'une vie. Vous écoutez l'histoire de Marie-Louise, née en Haute-Savoie en 1923.
C'était d'où venait à l'époque ?
Eh bien, c'était un petit village, pas riche, qui était essentiellement rural, paysan. Il y avait deux médecins, il y avait le pharmacien et le notaire, qui étaient les notables du coin. Il y avait quelques commerçants, des petites épiceries où on vendait un peu de tout, un marchand de journaux. Il y avait toujours déjà la poste, c'était un chef-lieu de canton, alors il y avait tout de même la poste, la mairie, etc. Et il y avait une excellente école primaire, notamment l'école de filles, où moi j'ai eu la chance d'aller, parce que dans la même période, les garçons étaient moins bien nantis que nous, mais nous avons vraiment eu la chance d'avoir des institutrices extraordinaires, vraiment extraordinaires. Il y avait deux demoiselles, Jeannin, pour lesquelles c'était une véritable vocation, pour ne pas dire un sacerdoce, et ne pas employer des mots trop grands, mais c'était vraiment une vocation de faire la classe, qui nous ont donné, en fait, toutes celles qui voulaient, pouvaient, avoir envie d'apprendre avec ces femmes-là, parce que non seulement elles enseignaient, mais elles nous donnaient envie d'apprendre, et ça, je crois qu'on ne leur sera jamais assez reconnaissante de ça. En plus, elles nous faisaient chanter. Elle nous faisait chanter des très belles choses. On chantait Beethoven et Mozart, et entre autres, et d'autres choses. Elle les allobroge aussi, d'ailleurs. Et c'était un endroit privilégié. Pour moi, l'école, c'était un endroit extraordinaire. Vraiment un endroit merveilleux où on apprenait des tas de choses.
Votre père était cultivateur ici à Douvaine. Comment c'était d'être paysan à l'époque, ou d'être fille de paysan ?
Alors, d'être fille de paysan, comme c'était mon cas, c'était pas rigolo tous les jours, parce que mon père n'avait que des filles, une femme qui pesait 40 kilos, et nous étions, maman et les filles, nous étions les ouvriers agricoles de l'exploitation familiale, qui était toute petite. Alors, toute gamine, on participait aux travaux des champs. C'était dur, hein. Il faisait très très chaud pour moissonner. On ratissait les betteraves. La terre était très caillouteuse. C'était dur. Ce qui était, pour mon père, c'était important parce qu'il était son maître. C'était quelqu'un qui n'aurait pas supporté d'avoir un patron. Mais je crois que c'était mieux pour lui que pour les femmes de son entourage. Les femmes avaient la vie assez dure à la campagne autrefois. Parce que maman, elle était à la fois mère de famille, elle tenait très bien sa maison, elle faisait de la très bonne cuisine, elle a fait 4 enfants. Et puis elle était dans les champs tout le temps avec mon père. Et nous aussi, pour faire des choses qui étaient toujours un peu au-dessus de nos forces. Surtout que mon père était un grand costaud et qu'il ne se rendait pas compte qu'on était moins costaud que lui. On a survécu, comme vous voyez.
Mais vous aviez envie de continuer vos études, mais ici à Douvaine, c'était pas possible à l'époque.
C'était possible si on avait de l'argent. C'était possible si on pouvait aller au pensionnat à Tonon, ou même simplement à l'école supérieure qui était gratuite, mais ça faisait des frais parce qu'il fallait prendre le car, et puis nos parents voyaient ça d'un très mauvais œil, parce qu'ils trouvaient que c'était pas bien pour des gamines de prendre le car, de rencontrer va savoir qui. On était très sévères à l'époque, on était très circonspects, notamment pour les filles. Alors, oui, donc moi je n'ai pas continué mes études, comme on disait à ce moment-là, à mon grand regret, j'aurais beaucoup voulu.
Mais vous nous disiez que le curé, à l'époque, avait mis sur pied un cours complémentaire pour les filles.
Alors, plus tard, ma plus jeune sœur, qui a 6 ans de moins que moi, en a bénéficié parce qu'elle, quand elle a passé son certificat d'études, il y avait un nouveau curé qui était arrivé à Douvaine, qui avait constaté qu'il n'y avait donc pas de possibilité pour les filles de continuer leurs études, parce qu'il y avait un cours complémentaire pour les garçons, mais pas pour les filles. Les garçons pouvaient passer leur brevet, pas les filles. Et lui, il a ouvert une classe de 6e, puis une classe de 5e, qui maintenant est devenue un collège à part entière, privé.
Alors vous, sortie de l'école, vous aviez quel âge ?
14 ans, je suis allée à l'école. Jour, j'ai fait durer tant que j'ai pu. On avait une maîtresse qui nous avait emmenés au certificat d'études et qui nous donnait des cours un peu complémentaires après le certificat. On avait le droit d'y aller jusqu'à 14 ans. Moi, j'y suis allée jusqu'à 14 ans, bien sûr. Et puis, après, maman, qui ne savait pas coudre et qui trouvait qu'il fallait qu'une femme sache coudre, m'a envoyée faire un apprentissage, comme on disait à l'époque, chez une couturière qui était à Loisin, qui était une femme très bien, qui m'a appris beaucoup de choses, notamment une très grande rigueur dans le travail, parce qu'elle était extrêmement travailleuse, précise, rigoureuse.
Quelles étaient les conditions de travail pour une apprentie à l'époque ?
Oui, eh ben c'est une bonne question. J'étais ici, j'allais le matin pour 8 heures, je redescendais à 11h30, je remontais, je dis remontais parce que c'est une commune qui est à 2 km d'ici, mais où il y a une bonne tirée à bicyclette. Et une bonne montée. Alors, et l'après-midi, de 2h à 6h, 6h30. Et puis le samedi, s'il fallait finir des robes, on restait jusqu'à point d'heure. Absolument pas de salaire, pas le moindre salaire. Même, je me souviens que la première année que j'étais en apprentissage chez elle, j'ai dû me faire faire un manteau. J'ai payé la façon du manteau. Elle ne considérait pas que le travail que je faisais à ce moment-là suffisait à couvrir les frais. C'était probablement vrai, d'ailleurs, parce que les premiers temps, on ne fait pas grand-chose de bon, hein, surtout quand on a 14 ans. Mais non, les conditions d'apprentissage ont énormément évolué depuis, mais à l'époque, c'était comme ça. Hein. On n'avait pas de sécurité sociale, pas d'assurance, absolument rien. Mon père était secrétaire de ce qu'on appelait alors la Mutuelle Accident. C'était les organisations du Sud-Est qui existent toujours, qui avaient monté ça. C'était une assurance qui couvrait les gros risques. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Et quand un paysan avait un accident, ça pouvait quelquefois être grave. Il était remboursé des soins médicaux et chirurgicaux, et puis il avait une petite indemnité journalière. Et mon père, qui était vraiment un paysan et pas du tout un scribouillard, alors tout le contraire d'un scribouillard, il avait horreur de faire ses papiers. Il avait seul Barbet de s'occuper de ça. Et moi, je me suis mise à m'en occuper toute gamine. Et ça me donnait d'ailleurs des cauchemars parce que mon père ne m'expliquait rien. Il avait horreur d'expliquer. Il fallait qu'on sache faire, il fallait qu'on se débrouille toute seule. Et je me suis mise à m'occuper de ça. Et en fait, ça m'a beaucoup débrouillé. Ça m'a appris à faire des choses. J'ai fait quelques bêtises et puis après, ben, j'ai fait bien. Et j'allais notamment collecter les primes d'assurance chaque année chez les cultivateurs du coin, si bien que je connaissais tous les gens, mais tous les gens de Douvaine, je les connaissais. Il n'y avait pas une personne à Douvaine que je ne connaissais pas, c'était tous des ruraux, et moi j'étais allée dans toutes les maisons, absolument toutes.
Parce qu'on s'amusait à l'époque quand on était une jeune fille.
Il y avait des choses. À l'école, donc, on chantait beaucoup. Et il y avait des chœurs qui se produisaient dans les séances théâtrales qu'il y avait alors. Parce qu'il y avait des séances théâtrales. Il y avait aussi des séances théâtrales qui étaient organisées, surtout par le patronage, par les religieuses, par la paroisse. Moi, je jouais dans des pièces de patronage quand j'étais gamine. Dieu sait comment, ça, je n'ose même pas y penser. Mais ça nous occupait beaucoup de soirées, beaucoup de moments de libre, si tant est qu'on n'en avait pas tellement que ça. Mais il y avait une chorale religieuse. On a eu notamment l'abbé Roset, donc, dont on va sûrement encore parler. L'abbé Roset qui avait donc organisé cette école, ce cours complémentaire pour les filles. Il avait également un grand talent de musicien et avec lui, on a superbement bien chanté. Les Suisses n'avaient plus rien à nous envier là, ou bien on n'avait plus rien à envier aux Suisses, qui passent pour être des grands chanteurs. On a beaucoup chanté, on a beaucoup appris à chanter. Alors là, il y avait par exemple, deux fois par semaine, il y avait des répétitions de chorale, il y avait une fanfare, alors ça c'était pour les hommes, une harmonie municipale. Le dimanche après-midi, on allait se balader sur les routes, comme ça, en bande de filles, on chantait. Vous savez, c'était tout à fait familial comme vie. On était tout le temps en famille. Il fallait rentrer quand l'Angélus sonnait. Il fallait rentrer. Si on n'était pas rentré, notre père n'était pas content. Surtout qu'il avait des filles qui veillaient sur elle, comme sur la prunelle de ses yeux. Si on avait... Il y avait la vogue une fois par an. Alors là, c'était des grandes réjouissances familiales. On faisait des gâteaux en quantité. On en faisait pour nourrir toute la famille qui venait d'Ouvaine ce jour-là. C'est le premier dimanche d'août. Quand on a eu 15-16 ans, on dansait une fois par année à la vogue. Et encore, nos parents étaient là. Et on ne dansait pas avec n'importe qui ni n'importe quoi. C'était sévère. Il y avait les veillées aussi. Chez nous, ça ne s'est jamais tellement fait. Mais il y avait des gens, notamment dans les hameaux, qui se réunissaient le soir pour casser les noix, pour raconter des histoires, pour tricoter, pour veiller ensemble. Ça, la télévision a complètement supprimé ces choses-là.
De quoi nourrit-on les femmes ? De quoi les nourrit-on les hommes ?
Une famille où on se parlait. Et ça, c'était assez rare à l'époque. Mon père n'était pas toujours commode, il avait un caractère vif. Mais on se parlait. Maman nous a toujours beaucoup parlé et il y avait une grande... Il y avait toujours une conversation, on se parlait de tout, on se racontait de tout, tout ce qu'on avait fait. C'était toujours des événements extraordinaires dont on parlait ensemble. Et on avait probablement moins besoin que les voisins viennent passer la veille avec nous. Parce qu'entre nous, on avait toujours des choses à se dire. Ça, je suis très reconnaissante à mes parents de ça. Parce que j'ai des tas d'amis dans le coin, des tas de femmes de mon âge. Je crois que ça leur manquera toute leur vie d'avoir parlé quand elles étaient jeunes, d'avoir pu parler dans leur milieu, d'avoir pu s'exprimer, dire « Maman, écoute, on m'a dit ça, ou j'ai entendu ça, ou j'ai vu ça, ça veut dire quoi ?» Et maman nous parlait. Et ça, c'était un grand mérite de sa part, parce que c'était pas tellement habituel. Là où elle était moins à l'aise, c'était sur les questions de sexualité, parce que ça, c'était tabou, on ne parlait pas. Mais quand même, elle a fait un effort et elle est arrivée à en parler aussi. Surtout quand je lui ai dit une fois qu'un confesseur à qui j'avais dû avouer mes turpitudes, parce qu'on croyait toujours qu'on avait fait des choses horribles, on était toujours en train de nous parler du péché de la chair, on ne savait pas ce que c'était, et on avait toujours peur de faire des péchés contre la pureté. C'était complètement stupide. Mais c'était vrai, ça se passait comme ça. Et un jour, je me suis confessée d'avoir eu probablement des mauvaises pensées à un capucin qui m'a dit « Mais parlez de ça à votre mère. Parlez donc de ça à votre mère. » Alors, je ne me suis pas fait dire deux fois. Moi, je lui parlais déjà de tout. Alors, la dernière chose dont j'avais posé lui parler, c'était ça. Je lui ai dit « Écoute, maman, voilà, il y a des filles à l'école qui nous disent que quand on accouche, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. » Elle nous racontait d'ailleurs des choses absolument invraisemblables. Et alors, maman, ça l'a dédouanée, ça a fini de la dédouaner. Elle n'en a pas dit plus qu'il ne fallait. Elle a dit juste ce qu'il fallait pour qu'au fur et à mesure que le temps passe, les questions pour moi soient résolues et que moi, alors je sois d'une tranquillité totale. Je n'étais pas une adolescente tourmentée parce que j'ai une mère avec qui aussi j'ai pu parler de ça. Et ça, je considère que c'est une grande chance.
Par exemple, quand vous avez eu vos règles ou quand votre corps s'est transformé, vous avez pu en parler avec votre mère.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors ça ne m'a posé aucun problème parce que d'abord, je n'ai pas eu de très bonheur, je n'ai pas eu une enfant très précoce. Et justement, cet ajustement-là s'était fait avant. Hein, c'est au moment de ma communion solennelle qui se passait à 11 ans, je crois. Et ce brave capucin, je lui ai une reconnaissance éternelle parce que ben là aussi, il avait fait sauter un bouchon. Et maman s'y est prêtée. Je vous assure qu'à l'époque, c'était pas rien. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes, elles n'auraient peut-être pas demandé mieux que de parler à leurs enfants. Mais elles ne savaient vraiment pas comment le faire, hein, vraiment. Alors avec les garçons, ça devait être encore bien pire. Parce que les hommes n'ouvraient pas la bouche là-dessus. Hein. C'est exclu.
Et votre père était fils d'un étranger, en quelque sorte. Oui. Comment est-ce qu'on le faisait sentir ?
Oui, tout à fait. Moi, je me suis fait traiter de sale suisse à l'école quand j'étais petite. En plus, à l'époque, je ne savais même pas que j'avais la nationalité suisse. Maintenant, je le sais, mais j'ai les deux. À l'époque, je ne le savais pas. Mes parents étaient très négligents sur ces plans, toutes ces affaires-là. Et, fallait. Si on n'était pas français à part entière, c'était une espèce de tare. C'était impardonnable.
Vous finissez votre apprentissage de couture, vous commencez à travailler comme couturière?
J'ai essayé, oui. J'ai vaguement essayé. J'ai vaguement fait de la couture comme ça à la maison. Ça m'embêtait beaucoup. J'ai beaucoup cousu. Je faisais bien sûr des robes pour toute la famille, mais j'ai jamais vraiment aimé coudre. Il y a eu une demoiselle qui venait de Margencelles et qui a commencé à faire des réunions ici, appelées réunions de JAC, donc Jeunesse Agricole Catholique. Donc moi j'avais 16 ans, 15-16 ans, et j'ai tout de suite su que ce truc-là, il ne fallait pas que j'y entre, que si j'y entrais, j'allais y passer tout entière, et je me suis beaucoup retenue. J'ai beaucoup hésité avant de m'engager là-dedans, en me disant ça va être quelque chose de tellement prenant que je ne vais faire que ça. Et ça a été vrai, parce que ce qu'on a appelé donc les mouvements de jeunesse catholique spécialisée, donc il y avait la JOC, qui était la jeunesse ouvrière, la JAC, etc., la JEC. Ça a été vraiment quelque chose de très intéressant. Nous, on a été cette génération qui est entrée là-dedans, un peu par hasard, par le jeu des circonstances, parce que je vous dis, moi, il y avait une réunion à Douvaine, j'y allais. Je n'étais pas du genre à pas y aller. Alors j'allais à la réunion, et puis j'écoutais tout ce qu'on disait, je participais de mon mieux, et puis après je me disais, oh là là, ça va être vraiment tellement, tellement passionnant, tellement intéressant, quand on va être là-dedans, on va plus pouvoir s'en échapper. Le but des mouvements d'action catholique spécialisée, je ne l'ai pas su tout de suite, hein, 16 ans, je ne l'ai pas su tout de suite, mais les réunions étaient très passionnantes, étaient très intéressantes, très vivantes. Alors, le but, c'était que les jeunes chrétiens connaissent leur milieu social et le fassent évoluer, chrétiennement. Bon, ça peut paraître une gageure, mais moi, je suis sûre, je sais, parce que je l'ai vu, j'ai vécu cette évolution, que vraiment, la JAC, ça a été un élément important, le plus important, dans l'évolution du milieu rural français. Il y a vraiment eu un mouvement dans la jeunesse rurale des années entre 1940, 1935, 1936, 1937, et puis l'après-guerre, 10 ans encore après la guerre, qui a été une occasion de formation extraordinaire. Parce que le principe, c'était ça, c'était voir, juger, agir. Bon, ça peut paraître très primaire. On faisait des enquêtes sur notre milieu. Sur tous les sujets, hein. Ça allait de l'hygiène à la culture, à la lecture, à toutes sortes de... tout ce qui nous était important dans notre vie, la formation professionnelle, bien sûr. On faisait des enquêtes, on avait tout un programme d'enquêtes, on regardait ce qui existait, on essayait de porter un jugement là-dessus pour voir ce qui n'allait pas, etc. Et après, on se demandait ce qu'on pouvait faire pour que ça évolue. Et vous savez, ça, quand vous faites ça pendant des années et des années et des années, génération après génération, ben vous faites bouger un milieu. Là, il n'y a pas d'erreur que ça a bougé, ça a remué. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir en France actuellement, tous les gens qui sont à la tête de toutes les organisations paysannes, rurales, y compris de crédit, de banque, etc., ils sortent tous de la JAC. Ils en viennent tous. Et ça a été vraiment une grande aventure.
Et c'était donc en quelle année elles se sont implantées à Douvaine?
Moi, je crois que j'avais 16 ans. Donc, oui, c'était juste avant la guerre. C'était en 38-39, juste avant la guerre. Ça a remplacé les mouvements de patronage qui existaient jusqu'à maintenant. Vous savez, il y avait des groupements. C'était des groupements jusqu'alors. Ça s'appelait les pâquerettes, les benjamines, je ne sais pas quoi. Ça n'avait rien de mal, hein, c'était très bien, mais c'était des petits groupes, on se retrouvait pour faire un petit goûter, ou bien aller dire le chapelet, ou bien aller nettoyer l'église, ou bien faire une promenade, ou bien des petites activités comme ça. Tandis que vraiment l'Action catholique spécialisée, elle a pris à bras le corps le sort des gens entre les mains. Et c'est eux qui l'ont pris eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement la hiérarchie catholique... n'a plus été très d'accord, parce que les gens ont pris de plus en plus leur responsabilité. Ils sont devenus tellement responsables que les curés qui les guidaient, ils n'en avaient plus grand besoin. Et que ça a été ressenti comme mauvais. Et il y a eu une grande crise après de tous ces mouvements d'action catholique qui ont plus ou moins été lâchés par la hiérarchie catholique. Bon, bah alors ça, si on entre dans ces histoires, là, on n'a pas fini. Vous savez, les histoires des prêtres ouvriers, etc., qui nous ont tous tellement peinés et tellement fait souffrir, qui ont été vraiment une croix dans notre chair, ça a été toute cette époque-là, y compris l'action catholique. Les gens étaient devenus trop responsables. Ils étaient devenus trop capables de savoir eux-mêmes ce qu'ils feraient ou ce qu'ils ne feraient pas. Pour leur profession, pour leur vie personnelle, pour le fait d'avoir un enfant de plus ou pas, etc., etc. Enfin, alors on a commencé doucement, vous savez, ça s'est fait un petit peu à la fois quand on a commencé, y compris les dirigeants de ces mouvements-là, qui étaient tous issus des groupements précédents, qui étaient tous des bons chrétiens, pleins de zèle, des militants chrétiens. Quand ils sont entrés là-dedans, ils n'ont pas très, très bien vu là où ils mettaient les pieds. Ça, je suis sûr qu'ils seraient d'accord avec moi pour dire ça maintenant. Mais on a été emportés par un mouvement irréversible, vraiment tout à fait irréversible. La demoiselle qui était venue faire ses réunions ici, qui s'appelait Germaine Deprat, qui s'appelle toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai tapé dans l'œil, j'en sais rien, et elle m'a embauchée, parce qu'elle ouvrait donc cette maison familiale d'apprentissage rural à Vétramontout, et elle m'a embauchée comme monitrice. Elle en était la directrice, elle m'a embauchée comme monitrice. Alors je suis devenue monitrice d'enseignement ménager, je savais bien coudre, mais je prétends que les deux premières années, j'ai appris beaucoup plus de choses que j'en ai appris à mes élèves, mais elles étaient contentes quand même, alors... Mais vraiment, je me dis qu'il fallait avoir un culot pour faire ça, pour me lancer comme ça. Quand Germaine m'a embauchée déjà, j'avais 18 ans. Et j'avais des élèves qui en avaient 22. J'avais des filles qui allaient se marier. Quand j'y pense quand même maintenant, je me dis que vraiment, c'était pas sérieux de faire ça. Et pourtant, quand je pense à tout ce que j'ai appris, puis elles, quand je les revois, elles me disent qu'elles ont aussi appris des choses, je me dis qu'on a bien fait de le faire. Il y avait trois équipes d'une quinzaine d'élèves. La première équipe, elles avaient de 14 à 15, de 15 à 16 et de 16 à 17. En fait, il y en avait aussi qui étaient plus âgées. Hein. Mais celles qui ont fait le cycle de 3 ans, qui sont souvent venues 4-5 ans parce qu'elles adoraient la maison familiale, et ça je les comprends, parce que c'était assez formidable, elles ont pu acquérir une bonne formation, parce que nous, on s'est aussi très bien formés après. Alors, on était devenues très performantes, on a été plus nombreuses et tout ça. Alors, trois équipes qui passaient chacune 15 jours Si bien qu'elles venaient tous les mois et demi. On les avait 4 fois dans l'hiver, 4 fois 15 jours dans l'hiver. Et comme on avait de très petites équipes ensemble, par exemple la cuisine, on en avait 6 ou 7 à la fois dans la cuisine. Elle faisait la cuisine pendant une semaine sur les 15 jours. Enfin, vous voyez, elle faisait la cuisine pour midi et pour le soir. D'ailleurs, c'est toutes des très bonnes cuisinières. On n'avait pas peur, on leur apprenait la cuisine, on leur apprenait la couture, la coupe. Moi, je faisais les cours de cuisine, les cours de coupe et les cours de couture. Il y avait des cours d'aviculture, il y avait des cours de maintien. On apprenait la bonne éducation, on apprenait l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qu'on faisait encore? C'est pas des tas de choses. On donnait des cours d'aviculture, par exemple, pour donner des bases. Parce que les poules, vous savez, ça poussait, ça s'élevait comme ça dans les champs n'importe comment, puis ça pondait. On s'apercevait pas qu'une poule faisait le quart de la moitié des œufs qu'elle aurait dû faire parce qu'elles étaient élevées n'importe comment. Alors, on était en train de commencer à maîtriser tout ça, à donner des structures un peu plus sérieuses aux petits élevages, au jardinage, à toutes ces affaires-là. On avait nos collègues de la maison de garçons qui venaient donner des cours de jardinage. On était très pieux, on avait la messe, il y avait une petite chapelle juste à côté, on venait nous dire la messe tous les jours ou tous les 2 jours. On y allait à 6h, 6h30 du matin par des froides gueux. Et la messe n'était pas obligatoire, les élèves n'étaient pas obligés d'y aller. Beaucoup y allaient, à l'époque on était vraiment très très catholiques, on le savait encore à cette période-là. Et il y avait surtout un climat de familiarité et de travail. On riait beaucoup, on travaillait d'une façon incroyable, mais tout ça dans une joie, dans un enthousiasme, dans une bonne humeur. Je pense que c'était la jeunesse et le fait qu'on croyait dans ce qu'on faisait, enfin. Et moi, dans la lancée, probablement un peu inspirée par elle, parce que les choses se sont passées comme ça, 2 ans après, j'étais élue présidente fédérale de l'AJAC. Alors, j'étais présidente de l'AJAC pour la Haute-Savoie. Alors là, ça a été une période extraordinaire pour moi, parce que non seulement ces enquêtes, ce travail de connaissance du milieu, je l'ai fait dans mon propre patelin qui était Douvaine, mais je l'ai fait, j'ai eu connaissance de ce qui se faisait dans tous les patelins de Haute-Savoie. Les enquêtes de la JAC, c'était moi qui les relisais, qui les visais, etc. Et alors, on avait organisé, en même temps que toutes ces enquêtes, ce qu'on appelait des journées rurales. C'était des grands rassemblements. J'ai vu des journées rurales qui regroupaient des 80, 100 filles. C'était toujours... rien que les filles, hein. Les garçons étaient de leur côté, les filles de l'autre. Mélangez pas les filles et les garçons, les curés nous auraient excommuniés. Ça, alors, c'était quelque chose de... À l'époque, c'était bien, bien séparé. Alors, dans ces journées rurales, on donnait des conférences, on faisait des cours sur le programme d'enquête de l'année. Alors, bon, ben, je vous dis, on parlait aussi bien de... Alors, il y avait bien sûr le rôle de la femme dans le milieu rural, mais il y avait aussi des choses très pratiques sur l'hygiène, parce qu'on faisait... Dans nos enquêtes, là, par exemple, là, j'ai un souvenir, parce que j'avais beaucoup ri quand j'avais lu ça, un patelin pas loin d'ici, où les gens disaient, ici, les gens coupent leurs ongles de pied une fois par an, ils prennent le sécateur. Enfin, c'était... Je ne sais pas si vous imaginez, mais on a découvert des choses. Moi, j'ai vu une gamine de 14-15 ans à qui je faisais, au cours d'un cours que je donnais dans un patelin pas tellement loin d'ici non plus, une jolie gamine, très mignonne, un visage très ouvert, que de toute évidence était formée, elle était déjà bien rondelette, et qui m'a dit, mais mademoiselle, il faut se laver le ventre, moi j'ai jamais lavé mon ventre. Si elle ne se lavait pas le ventre, elle se lavait encore beaucoup moins d'autres choses. Et... il y avait une espèce, d'abord on était mal installé, il n'y avait pas de confort, s'il n'y avait pas d'hygiène, c'était aussi parce qu'il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons. Et on a fait tout ce déblayage-là, on a appris aux gens à penser, à réfléchir, à penser à leur corps, à laver leurs cheveux, à ne plus avoir de poux. Et ça a démarré sur des choses comme ça, vous savez, dans certains villages de montagne, moi j'ai découvert des choses effarantes. Hein, qui allait jusqu'à l'inceste, parce que des gens qui vivent à 12, à 15, dans une pièce pendant l'hiver, il y a 3 lits pour tout le monde, hein, et vous découvrez des gamins qui sont idiots, etc., pas besoin de s'interroger longtemps pour savoir ce qui se passe. Et bien, la vie, c'était ça. Hein, c'était à une heure de marche du clocher. Les gens étaient dans la montagne, dans la neige pendant 3-4 mois de l'hiver. Ils buvaient beaucoup d'eau de vie. Les malheureux, mais la vie qu'ils avaient, c'était extraordinaire. Tout ça, on a découvert ça grâce à la Jacques, vraiment. Pour moi, ça a été un révélateur extraordinaire. Je n'aurais jamais connu la Haute-Savoie comme je l'ai connue si je n'avais pas fait ça.
Vous aviez un salaire à l'époque ?
Ah oui, à la maison familiale, j'étais payée. Et puis, on me payait mes déplacements. En plus, les déplacements pendant la guerre, toutes les fois qu'on pouvait, on les faisait à bicyclette. Parce que les trains, il y en avait ou il n'y en avait pas. Les cars, la même chose. Enfin, c'était vraiment épique pour circuler. Et Mais alors, l'argent, ça comptait pas. On n'y pensait pas. On en avait toujours assez, on avait l'impression qu'on en avait toujours assez pour faire ce qu'on avait à faire. C'est après qu'on s'est rendu compte que, par exemple, si on nous avait affilié à la Sécurité sociale, ça aurait quand même mieux valu. Parce que ça, on l'a fait, mais au bout de 2 ou 3 ans. Enfin, mais vraiment, pour commencer, on travaillait vraiment pour la gloire, vous savez, pour le bonheur d'être ensemble, pour le bonheur de faire quelque chose en quoi on pouvait croire. Et je vous assure, on n'était pas à plaindre. Hein. C'était dur parce qu'on travaillait énormément. Germaine était une femme qui était capable de travailler pendant des heures d'affilée sans jamais être fatiguée. Alors nous, c'était le même régime, mais on n'aurait pas eu l'idée de se plaindre.
Vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Nous écoutons dans Histoire d'une vie, l'histoire de Marie-Louise, née à Douvaine, en Haute-Savoie, en 1923. Nous approchons de l'année 1939 et commencent les années de guerre.
À ce moment-là, éclate la guerre. Qu'est-ce qui va changer à Douvaine ? Comment est-ce qu'on sent la guerre à Douvaine ?
Pour commencer, la guerre, ça a été quelque chose de bizarre, parce que pendant la drôle de guerre, on a eu 2 fois un régiment qui a stationné par ici. On a fait la connaissance de braves petits soldats, bien gentils. On en a même logé, on les a abrités, on a fait ce qu'on a pu. Mais après, il y a eu vraiment la guerre avec le... Avec la défaite de 40, moi je sais que j'avais 16 ans à ce moment-là. J'ai eu 17 ans au moment de la débâcle. J'ai eu un sentiment effroyable, d'un effondrement épouvantable. Et alors il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai entendu l'appel du 18 juin, il y a des tas de gens qui ne l'ont pas entendu. Et quand j'en ai parlé autour de moi, beaucoup de gens ont haussé les épaules en disant « Qu'est-ce que c'est celui-là ? Qu'est-ce qui est De Gaulle ? Qu'est-ce que c'est ça ? On n'en a jamais entendu parler. Bon, c'est fini. Maintenant, c'est Pétain et il faut suivre Pétain. » Et c'est vrai que pendant les premiers temps, les gens étaient perdus, ne savaient pas du tout où ils en étaient. Et Pétain paraissait le vainqueur de Verdun, le sauveur de la France. Ça paraissait la solution.
Ici Londres. Les Français parlent aux Français.
Et vous ? Vous, déjà à l'époque, vous aviez 16 ans, mais vous penchiez plutôt pour De Gaulle ou... qu'est-ce qu'à 16 ans, vous avez... comment est-ce que vous avez réalisé ce qui se passait ?
Moi, j'avais un père qui, quand il a vu qu'on demandait à Pétain de prendre le pouvoir, enfin la direction du gouvernement de Vichy, a dit, en criant comme d'habitude, parce qu'il avait une voix du tonnerre, En parlant très fort, il a dit « Moi, je vous dis que si on le met là, c'est parce que c'est un vieux gaga et que les Allemands feront tout ce qu'ils voudront textuellement. » Il a dit ça comme ça. Et nous, on disait « Papa, tais-toi, la cinquième colonne, on va venir t'arrêter, on va... » Mais la graine était semée. Hein. Mon père avait dit ça. « Non, mais moi, je ne peux pas dire que j'ai tout de suite tout compris. » Et si on n'avait pas eu justement les fils Miguet, gloire à eux, et l'abbé Roset, qui a tout de suite compris ce qui se passait aussi, et Témoignage Chrétien, les équipes de Témoignage Chrétien à Lyon qui ont édité ce journal, cette petite feuille de rien du tout, qui venait dans les valises des fils Miguet quand ils venaient passer le samedi et le dimanche, ou le week-end, ou de temps en temps en vacances à Douvaine. On aurait été comme les autres, on aurait mis longtemps à comprendre ce qui se passait. Mais alors avec Témoignage Chrétien, on ne pouvait pas ne pas savoir. L'abbé Rose est venu un jour, moi j'étais dans le jardin, en face de la maison, en brandissant un des premiers numéros de Témoignage Chrétien, et il m'a dit, Mademoiselle Betchen, il était très cérémonieux avec les filles, Mademoiselle Betchen, lisez ça, et vous me direz si on peut rester sans rien faire devant de pareilles abominations. C'est un mot de curé, ça. Et effectivement, quand on avait lu Témoignage Chrétien, ben on savait qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire. Ça. Et alors, c'est là où c'était extraordinaire, parce que, moi, j'étais présidente fédérale de la JAC, j'avais une certaine, aura, et mon curé, et il m'honorait de sa confiance, parce qu'il n'avait pas confiance dans les femmes. Les curés d'alors, ils n'avaient pas confiance dans les femmes.
Votre curé, c'est l'abbé Roset. L'abbé Roset, qui, à Douvaine, était en contact avec les gens de Témoignage Chrétien de Lyon. Tout à fait. Qui ont mis sur pied un espèce de réseau.
Ah, tout à fait, un vrai réseau.
Un réseau d'information avant tout, oui. Donc de savoir ce qui se passait.
Puis un réseau de passage. Puis un réseau de passage, ça a tout de suite été un réseau de passage. On a tout de suite, à Douvaine, ça a commencé très tôt, on a commencé à faire passer via Douvaine la cure de VJ et les deux passeurs de VJ qui ont été aussi déportés, qui coupaient les barbelés à la frontière et qui ont fait passer des juifs, des officiers polonais, des résistants, des gens qui passaient des renseignements. Enfin, il y a eu tout un tas de gens. Moi, je pense qu'il y en a eu plusieurs milliers qui ont passé par Douvaine.
Sur le pont de Londres, un bal y est donné. Sur le pont de Londres, un bal y est donné. Hitler demande à Göring d'y aller. Hitler demande à Göring d'y aller. Le Pas-de-Calais, c'est dur à traverser. Le Pas-de-Calais, c'est dur à traverser. C'est difficile à Londres d'arriver. C'est difficile à Londres d'arriver. Quelques soldats d'abord sont envoyés. Quelques soldats d'abord sont envoyés. Sur les bateaux, trois par trois enchaînés. Sur les bateaux, trois par trois enchaînés. À peine partis, les v'là qui sont noyés. À peine partis, les v'là qui sont noyés. Voilà ce que c'est que de pas savoir nager. Voilà ce que c'est que de pas savoir nager.
Donc il y a un réseau catholique qui se met en place. Ici à Douvaine, c'est l'abbé Roset. Et il va contacter autour de lui tous les gens qui avaient des activités proches de la cure.
Et moi, j'ai été au courant, plus que d'autres probablement, à cause du voisinage. Et puis parce que, étonnamment, il me faisait confiance. Puisque les autres avaient trouvé que je pouvais être présidente de la JAC, et étant donné le travail que je faisais, il me faisait confiance. C'était tout à fait immérité, parce qu'il y avait autour de moi d'autres filles dans lesquelles il aurait pu avoir tout autant confiance. Mais à mon avis, c'est à cause de ça. Et puis alors, notre maison ici a servi d'abri, souvent, notamment à des juifs. D'abord, on a eu une petite fille juive de 43 à 46, qui avait été placée. L'organisation juive avait placé des enfants dans les familles. Alors nous, il y avait trois filles, il y en avait une qui était morte, il y avait trois filles, on en a mis une petite avec. Dans le tas, ça ne se remarquait pas, hein. Et il y en a eu plusieurs ici dans la région. Pardon, je termine ce chapitre-là. Maman et papa ont souvent eu l'occasion d'abriter des gens ici parce que la cure débordait. Quand il fallait les faire dormir, quand il fallait les faire manger, Très souvent, la pauvre Mademoiselle Julia, qui était l'aide de Monsieur le curé Roset, elle savait plus donner de la tête. Alors il y a eu souvent ici, il y a eu même des gamins qui ont couché là dans la salle à manger par terre, le temps de dormir pour le lendemain matin passer aux aurores à la frontière.
Bah, comment se passait ce passage? Eh ben, les enfants, les adultes, les gens arrivaient ici à Douvaine, déjà amenés par des gens du réseau, oui. Et ils arrivaient à la cure.
Oui, ça se passait difficilement à certains jours, plus facilement à d'autres. Tant que nous avons été sous l'occupation italienne, ça n'a pas été trop difficile. Ça a été beaucoup plus terrible quand les Allemands sont arrivés. Oui, les Italiens, je crois qu'ils fermaient un peu les yeux. Et puis, ils n'étaient pas anti-juifs comme les Allemands, hein. C'était pas du tout pareil. Mais on a déjà passé beaucoup de gens sous l'occupation italienne. Ils fuyaient les nazis plus que les Italiens, mais enfin, on était occupés par les Italiens.
L'occupation italienne a duré combien de temps, Douvaine ?
Je crois qu'elle a duré jusqu'à... Bon, depuis la débâcle, grosso modo, donc depuis l'automne 40, jusqu'en... Je crois bien que c'est en automne 43. Il me semble que c'est ça, mais je ne suis pas très sûre des dates. Ça, il faudrait vérifier. Parce que ça, les dates et moi, on est un peu fâchés. Mais je crois que c'est ça. Et c'est là que c'est devenu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. C'est là d'ailleurs que l'abbé Rosé, il a été déporté, il a été vendu, très probablement dénoncé, Dieu sait par qui. Et il a été, un soir de février 44, les Allemands sont venus le prendre dans sa cure. Et le même soir, ils ont arrêté les deux passeurs, qui étaient deux paysans de Végy, M. Lançon et M. Périlla. Et ceux-là ont été des véritables héros, parce que ceux-là, on conduisait de relais en relais les gens chez eux, et eux, ils coupaient les fils de fer barbelés, et ils faisaient passer les gens, les enfants, les vieillards, les malades, les valises, tout ça passait sur les fils de fer barbelés, à la barbe des Allemands, et vous savez, pourtant c'était surveillé, et c'était très difficile. Hein. Et alors, je dois ajouter que moi j'ai plusieurs fois emmené des gens à d'autres passeurs sur la route. J'en ai emmené à la cure de Végy, j'en ai emmené sur la route de Collongette. Mais je n'ai jamais passé la frontière, c'était ça le plus difficile. Mais il y a eu des jeunes gens d'ici qui faisaient partie de la JAC, qui, eux, ont passé, ils en ont aussi emmené à Végy, ils en ont aussi emmené à la cure, ils en ont aussi beaucoup emmené chez M. Lançon, mais ils ont aussi emmené, même sur leurs épaules, fait passer leurs manses à des femmes, etc., quand Lançon, par exemple, était indisponible, ou bien quand le coin de Lançon était trop surveillé, ils allaient dans un autre endroit de la frontière, et ils ont fait passer. Et il y a eu notamment mon beau-frère, qui s'appelle Léon Bouvier, il y a eu les fils Rossio d'Aubonne, il y a eu Jean Giazzi. Ils ont souvent, parce que l'abbé les appelait, alors le premier qui lui tombait sous la main, eh bien, il l'embauchait, il disait, dis donc, il y a du monde ce soir qu'il faut emmener, etc. Alors, ou on les emmenait à Végy, et les garçons ont fait beaucoup plus que les filles. L'abbé, d'abord, il faisait grande confiance aux garçons, ils pouvaient d'ailleurs, ils étaient très très bien, ils étaient très à la hauteur. Et puis, c'est vrai que c'était davantage aussi un travail de garçon. Moi, j'ai emmené des femmes, parce qu'on me voyait tout le temps avec beaucoup de jeunes filles de la JAC. Alors, quand il y avait des femmes, on prenait nos vélos, puis on allait tranquillement sur la route, comme si ça avait été... comme on me voyait souvent à l'époque avec d'autres personnes que de Douvaine, parce que c'était pas normal non plus, ça, à l'époque. On était entre gens de Douvaine. Moi, j'avais d'autres gens qui venaient à la maison. Ça avait été plus facile aussi d'être avec des personnes étrangères à Douvaine. Ça n'étonnait pas les douaniers quand on passait. Voilà.
Il n'y a plus de tabac dans la France entière. Il n'y a plus de tabac, les boches n'en manquent pas. On va grelottant, faute de combustible. On va grelottant, mais on a dalle. Et l'on fait la queue sans trouver de beurre. Et l'on fait la queue, mais on a pucheux. Il n'y a plus de jambon, puis l'année dernière. Il n'y a plus de jambon, mais il y a Marion. Il n'y a plus de pain dans toute la France.
Il n'y a plus de pain, il y a Benoît Méchat.
Tout va chez les frites, qui laissent rien en France. Ils ne laissent les frites que chez l'autre, les Ritz. Si ça va plus mal, faut bien qu'on se le dise. Si ça va plus mal, on aura l'aval.
Mais tout va très bien, madame la marquise.
Mais tout va très bien, puisqu'on a pétain.
Mais ne vous en faites pas, faudra que ça finisse. Mais ne vous en faites pas, la France les chassera. Mais ne vous en faites pas, faudra que ça finisse. Mais ne vous en faites pas, la France les chassera.
Vous êtes sur Radio Pleine Lune dans le 3.8 MHz. Nous écoutons dans Histoire d'une ville, l'histoire de Marie-Louise, née à Douvaine en Haute-Savoie en 1923. Nous sommes en plein milieu de la Deuxième Guerre. Restez à l'écoute dans quelques instants, la suite du programme.
Thank you.